Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial Web Today. J'ai eu la chance de participer à cet événement il y a quelques jours seulement et je vais vous faire profiter de deux formats courts pour plonger dans les coulisses de cette édition. Pour celles et ceux qui sont là pour la première fois, je m'appelle Guillaume Comagnac. Je suis associé du studio Tracteur qui accompagne des startups tech qui se situent entre le démarrage et la série A, de la vision jusqu'au lancement. C'est grâce à Tracteur que le projet Open Startup, les événements comme le podcast, existent. Oui, car pour rappel, Open Startup, c'est d'abord des événements de portes ouvertes des lieux d'innovation d'une ville. Nous préparons actuellement une quatrième édition à Bordeaux et une deuxième à Nantes. Et c'est aussi ce podcast avec lequel j'échange avec des actrices et acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Ils nous partagent leurs aventures, les succès comme les galères, avec de nombreux conseils à la clé. À la une de cet épisode, 4 courtes interviews pour aborder les thèmes du no-code, de product management, de content design, et bien sûr, on parle pas mal d'IA à travers ces 4 interviews. Allez, je vous laisse avec le Guillaume du passé qui vient juste d'arriver au Web Today. Allez, c'est parti pour ce Web Today. Je viens d'arriver à Nantes, là, j'ai pris le train depuis Bordeaux. Et puis, je suis là sur l'île de Nantes, qui est connue pour ses fameuses machines. C'est là qu'a lieu l'événement, dans le bien nommé quartier de la création, où se trouve aussi la Halle 6, le bâtiment totem de la French Tech Nantes, qui est pilotée par la Cantine Numérique, qui se trouve être l'organisateur de ce Web Today. Alors le Web Today, c'est quoi? C'est un festival pour d'abord des pros dans le secteur tech, innovation, mais pas que. Enfin, on en est aujourd'hui à la 13e édition. Ça se déroule sur 3 jours. Ils attendent plus de 10 000 participants et il y a près de 200 ou 250 speakers, je crois. Et l'idée, c'est de parler du monde de demain dans une ambiance qui est vraiment décontractée. Il y a vraiment une ambiance festival. Avec des DJ sets, beaucoup de place pour la partie culture, art, artistique. Voilà, donc c'est aussi très propice au networking, cette ambiance. Et puis voilà, surtout on vient pour prendre sa dose d'inspiration. Ça me fait bizarre là de parler en dehors d'un bureau et sur un format qui change, mais je sais pas comment ça va rendre, donc je serai preneur de vos retours, vraiment. Je vous laisse écouter là, et puis n'hésitez pas à m'écrire pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Alors là, je suis arrivé il y a quelques minutes et j'ai fait un rapide tour du village des partenaires. Et là, j'aperçois déjà quelqu'un avec qui il va être bon d'échanger. C'est Shubham Sharma, que vous connaissez peut-être sur YouTube. En tout cas, si vous avez un jour recherché des infos sur l'outil Notion, il y a de grandes chances que vous soyez tombé sur lui. Allez, on va essayer de l'interroger. Je suis avec Shubham, je suis ravi de te voir Shubham. 3 questions rapides pour toi, autour du no-code évidemment. Je voulais te demander, question d'ailleurs un peu générale, le Web Today a fait du no-code carrément presque une track cette année. En quoi tu penses là que l'avènement vraiment du no-code, c'est en train de vraiment de bousculer les règles du jeu là, parce qu'on le voyait venir nous dans les sphères tech entrepreneuriales depuis quelques années, mais ça y est, c'est en train de s'installer plus durablement dans toutes les industries.
Ouais, bah c'est vrai que en fait, vu de dehors, tu peux voir qu'il y a plus en plus de no-code, de plus en plus d'éditeurs, de formateurs, d'outils, de choses comme ça. La réalité, c'est qu'en fait, c'est plus les usages qui sont en train de changer. On est en train de voir de plus en plus de gens qui se mettent à la tech, là où en fait la barrière à l'entrée, elle était assez grande pour les gens pour qui commencent à coder. Là, elle est de plus en plus petite. Et en fait, on l'a vu sur ces 10 dernières années que de plus en plus, on était sur des confs très, très tech et qu'en fait, le niveau est juste en train de en fait, il y a plus en plus de gens qui veulent y venir, donc ils créent les outils pour que ces gens-là puissent accéder en fait à tous ces outils tech. Donc pour moi, c'est pas une nouveauté, c'est plus une suite logique de ce qui est en train de se passer, et c'est pour le bien de tout le monde, tu vois. Aujourd'hui, toi, tu peux faire un podcast avec un outil que tu utilises, avec un micro et tout ça dans ta poche, et tu prends le train. Alors qu'avant, il fallait un studio et il fallait une régie. Tu vois, c'est pareil pour la tech.
Cool. Mais justement, pour aller dans cette suite logique, on nous vend aussi un peu une réalité du no-code, c'est facile, du no-code, c'est simple, alors qu'en fait, moi, j'ai le sentiment que c'est aussi en train un peu de se spécialiser. On le voit, il y a maintenant des back-end as a service no-code, des outils qui se spécialisent. Est-ce que tu vois un peu cette dissonance entre le côté le no-code, c'est facile, et en même temps, de plus en plus, il faut quand même avoir des compétences un peu d'architecture de no-code, tu vois?
Ouais, en fait, il y a plusieurs niveaux de no-code. Tu vois, en fait, c'est jamais blanc ou noir, c'est jamais code ou no-code, même si le nom laisserait penser ça. Si tu veux, c'est comme... je sais pas si t'aimes le café, mais c'est comme le café, tu vois. En fait, t'as la machine Nespresso qui a démocratisé le café. Ça a évité qu'on fasse du jus de set et que les gens puissent avoir du bon café chez eux. Pourtant, quand tu parles à des créateurs, enfin, à des gens qui aiment le café, ils détestent tous Nespresso. Parce qu'en fait, ils se disent... Putain, mais en fait, c'est une seule capsule, quelques types de café, et surtout, on nous vend du café de merde, etc., etc. Et en fait, ces gens-là vont sur de la cafetière un peu plus, il y a des cafetières plus sophistiquées, ça reste des cafetières. C'est-à-dire qu'ils vont pas eux-mêmes moudre leur grain, ils vont pas eux-mêmes faire leur filtration, etc. Et en fait, il y a vraiment toutes les nuances de café, et de machines à café aujourd'hui, malgré le fait que ce soit des machines. Tu vois, donc c'est pareil, il y a toutes les nuances de no-codeur et d'outils no-code, parce qu'il y a des gens, ça va être des puristes, ils vont vouloir tout contrôler, et il y a des gens, en fait, ils se disent, attends, good enough, moi j'ai un outil, il me fait tout, il me fait le café, moi je reste avec ça.
Cool. Dernière question pour aller vers la conf que tu animeras vendredi. Tu as parlé de l'art de l'organisation numérique. Je sais que tu vas dévoiler plusieurs principes de productivité personnelle. Est-ce que tu peux nous en faire un petit light là en guise de teasing là que tu peux nous dévoiler?
Ouais, j'énonce 5 principes de productivité qui permet de créer un petit peu son minimum viable system. Donc le système minimum pour s'organiser aujourd'hui à l'ère du numérique. Et en fait, un des piliers, c'est la capture de tout ce qui se passe dans ta tête. En fait, notre cerveau est très très bon à avoir des idées, à fuser un petit peu partout. Peut-être qu'au moment où je vous parle, vous vous dites non mais putain, fallait que je lance ma machine et oh là là, j'ai cette nouvelle idée de startup. Bah ça, en fait, notre cerveau il est pas du tout bon à garder toutes ces informations. Du coup, faut les capturer. Et pour ça, il faut une méthode de capture. Ça peut être votre téléphone, ça peut être un bout de papier, mais souvent les gens utilisent beaucoup trop de méthodes de capture. Ils ont aussi des post-it, leurs notes sur leur téléphone qui est ouvert. Ils ont aussi leurs mains, ils ont aussi leur tête où ils essaient de garder ça. Et c'est là où je vais vous parler en fait d'une méthode qui est pas inventée par moi, hein, mais c'est dans le bouquin GTD, c'est la capture et la clarification. C'est comment utiliser ce pilier de capture pour enlever tout ce qu'il y a dans la tête, pour après avoir un système dans lequel on peut se dire ok, ça je sais que ça va être géré plus tard, donc en fait j'enlève mon anxiété et j'enlève ma charge mentale.
Cool, merci Shubham. Si on n'est pas au Web Today, on te retrouve où?
Sur YouTube principalement, vous tapez Shubham Sharma, SHUBHAM, et puis voilà, vous me trouverez sur plein de vidéos.
Merci Shubham. Merci à toi.
On va poursuivre sur le no-code avec Joyce, qui est l'employé numéro 5 chez WeWeb.io, un des outils qui connaît une forte croissance ces derniers mois. Je viens d'assister à sa conférence qui s'appelait « Comment hacker une application no-code pour mieux la protéger ?» et je vous propose d'aller lui parler.
Déjà, Joyce, est-ce que tu peux te présenter en deux secondes? La présentation que tu as faite durant ta conférence là était assez incroyable. J'ai pas eu beaucoup d'intervenants qui se sont présentés comme ça. Est-ce que en quelques secondes, tu peux nous dire qui tu es?
Oui, je peux te la refaire. Donc, je m'appelle Joyce. J'ai passé un bac littéraire, étudié la poésie romantique anglaise, fait de l'audit financier chez PwC. Ensuite, j'ai tout lâché pour faire de la musique de film. Puis, j'ai atterri dans le monde des startups et du no-code. Voilà, je fais aussi du foot et de la boxe et beaucoup de musique.
Mais il faut que tu la gardes, cette intro, elle est cool. Aujourd'hui, t'es chez WeWeb, WeWeb.io, là, qui est une solution no-code, low-code, on va dire, front-end, qui est en train de prendre de plus en plus de place. Et d'ailleurs, je trouve ça très, très cool comme solution. On l'utilise chez Tracteur, qui est notre startup studio. T'as parlé en introduction que le no-code, c'était pas forcément facile, comme on souhaite le dire. J'en parlais avec Shubham Sharma, là, juste avant. Un petit mot là-dessus, parce que c'est vrai que c'est en train de se spécialiser aussi, le secteur no-code.
En fait, je pense que le no-code, c'est facile si on veut faire, si on a un projet simple. Donc, si on a besoin d'un site vitrine, Wix, c'est du no-code, c'est assez facile, c'est du glisser-déposer, on peut avoir un site. Et attention, ça ne veut pas dire que Wix ne peut pas faire des choses complexes, mais enfin, globalement, si le projet est simple, le no-code, ça peut être facile si on a le bagage technique, enfin, il faut quand même être câblé pour. En revanche, si on veut faire un projet complexe, c'est comme n'importe quel projet web. C'est tout, enfin voilà, c'est dur quoi. Et puis c'est pas que la partie programmation, c'est la partie conduite de projet, enfin c'est tout ça. Et donc c'est plus facile que le code, enfin je fais un peu de Python, mais voilà, enfin très sommairement, c'est plus facile ouais que d'apprendre Python, mais ça reste voilà, il faut l'apprendre et il faut être câblé pour, il faut que ça plaise, il faut l'avoir le temps, enfin voilà.
Ok, cool, merci. Une des critiques qu'on peut faire parfois au no-code, c'est quelque chose sur laquelle t'es intervenu durant ta conférence, c'est le fait que on entendait dire ouais, mais le no-code c'est pas sécuritaire, oui, mais le no-code c'est pas RGPD. Pourquoi ça change et pourquoi c'est plus vrai en fait?
Pourquoi ça change? Je pense justement parce que les gens ont voulu faire des projets de plus en plus complexes et les grands groupes. Enfin, je le disais, enfin, il y a des banques, des assurances, des cabinets d'audit qui servent d'outils comme Xano et WeWeb. Et en fait, quand ces grands groupes ont vu, je pense, le temps que les gens économisaient sur des projets simples, ils se sont dit, faut peut-être creuser. Et les outils no-code se sont aussi dit, bah, pour pouvoir toucher ces grands groupes, il faut qu'on mise sur la performance, sur la sécurité, sur la RGPD et qu'on s'assure d'être au niveau et de donner autant de flexibilité que le vrai code. Parce que sinon, c'est, enfin, ça reste chouette et il y a de la place pour les outils, voilà, pour les plateformes qui font des sites simples. Mais voilà, si on veut que le marché grandisse, il faut forcément que les outils no-code s'adaptent et aillent sur une complexité, une flexibilité aussi forte que le code.
Si tu avais un conseil à donner à une startup ou un porteur de projet qui se lancerait dans un projet avec une stack no-code sur ce sujet de sécurité, tu dirais quoi s'il y avait une chose à retenir?
Qu'il faut se former. Que c'est hyper important de se former et de bien s'entourer et que la donnée, c'est la clé. Moi, je bosse pour WeWeb, donc on est côté front. Les trois quarts des problèmes, si ce n'est plus, qu'on voit dans les apps qui ne performent pas, en fait, c'est un souci qui vient du back.
Ce que tu disais, ne faites jamais confiance au front.
Ouais, voilà. Si vous envoyez la donnée vers le navigateur de vos utilisateurs, il y a beaucoup de données qui arrivent dans le navigateur de vos utilisateurs, et si vous savez pas, si vous ne maîtrisez pas parfaitement quelle est cette donnée qui est envoyée là, c'est que potentiellement votre app, elle est vulnérable.
Cool. Merci, Joyce.
Avec grand plaisir.
Je suis avec Simon Robic, si je me trompe pas. On m'a dit qu'il fallait que je vienne te parler parce que tu étais la star du product à Nantes. Est-ce que tu peux te présenter en deux secondes, Simon?
Écoute, la pression sur mes épaules est très grande d'un coup, là, la star du product. Non, je m'appelle Simon Robic, moi je suis cofondateur d'une startup qui s'appelle Scribe, où on fait un outil qui aide les équipes product, justement, à bien réaliser leur product discovery. On travaille avec des gens comme Doctolib, Nespresso, Orange, Pennylane. Et donc, on aide ces équipes produits à mieux comprendre leurs utilisateurs pour qu'ils puissent construire des meilleurs produits. Et donc, ça fait 2-3 ans que je fais ça. Et un peu plus de 10 ans que je traîne un peu dans l'univers tech, startup. J'avais lancé une première boîte en 2013 où on faisait un outil de gestion des conversations sur les réseaux sociaux, qui a été racheté en 2015 par une boîte qui s'appelle iAdvise, où je suis resté 5 ans au produit et au product marketing.
Cool. J'ai posé des questions un petit peu à droite à gauche. Là, j'ai l'impression que le sujet product, au final, il est pas autant connu que ce que je pouvais penser. Tu vois, j'ai parfois demandé à des gens si je te dis CPO, c'est quoi un CPO? Franchement, très peu de personnes connaissent. Je suis pas du tout en train de dire que c'est une critique ou pas, mais c'est que l'écosystème product a l'air de se développer, mais encore assez peu connu. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'état de l'art du product en France et aussi peut-être d'un point de vue startup qui se lance, tu vois, parfois la vision produit est très portée par les fondateurs, ce qui peut être bien au début, mais aussi peut comporter des limitations, parce que quand tu portes toi la vision produit, peut-être des fois tu as des biais. Voilà, c'est une vaste question que je te pose. Quel est ton avis là-dessus là?
Déjà sur l'état de l'écosystème un peu product, et c'est clair que c'est pas le premier métier auquel les gens pensent quand on parle startup. C'est sûr que tout le monde pense tout de suite aux développeurs, c'est indispensable. Tout le monde pense au business, au marketing. Par contre, effectivement, la conception du produit, alors on peut penser au design aussi, tu vois, c'est peut-être un métier un peu plus proche d'une autre aussi, mais le fait d'avoir des gens pour mettre de l'huile dans les rouages un peu au milieu de tout ça, parce que c'est ça le rôle d'un product, hein, finalement, c'est d'être un peu au milieu de tous les métiers que je viens de citer là, ça, c'est pas quelque chose qui vient automatiquement. Je pense que quand moi j'ai commencé il y a 10 ans, c'est un métier dont on n'entendait absolument pas parler en France. Et en fait, en 10 ans, c'est quelque chose qui s'est beaucoup plus structuré. Maintenant, on voit qu'il y a des grosses communautés product. Je pense à French Product, par exemple, French Produit, pardon, tu vois, qui organise des événements un peu partout en France. Il y a une grosse communauté aussi, un gros événement qui a lieu tous les ans qui s'appelle la Product Conf. C'était il y a quelques jours, quand on enregistre là, tu vois, il y avait plus de 1000 personnes à Paris, avec des pas mal de conférences, etc. Et puis, c'est devenu maintenant quand même quelque chose d'assez automatique au fur et à mesure que l'organisation, elle grandit. T'as raison, tes fondateurs, au départ, mais les fondateurs, ils font tout, ou les fondatrices font tout. Tu fais du business, tu fais du produit, tu fais de la tech, tu fais du design. Et puis, au fur et à mesure, bah, tu vas devoir embaucher plus de sales. Au fur et à mesure, tu vas devoir embaucher plus de développeurs. Mais en fait, au fur et à mesure, le besoin d'embaucher des products, il se fait sentir aussi. Et je pense que c'est un cheminement qui est assez naturel. Et si aujourd'hui, tout le monde ne sait pas encore ce que c'est un CPO, je pense qu'en vrai, il y a plein de gens qui savent pas non plus ce qu'est un CRO, tu vois, en charge des revenus. Mais au fur et à mesure que l'écosystème, se professionnalise presque, tu vois, dans la tech en Europe, au fur et à mesure que les boîtes grandissent, c'est des métiers qui sont aujourd'hui au cœur des organisations et dont la notoriété ne fait que grandir, quoi. Je crois que j'avais vu un peu une stat dans les boîtes tech sur LinkedIn, les métiers produits, c'est ceux qui sont en plus forte croissance sur les 5 dernières années. Donc ça y est, c'est en train clairement de changer et ça prend la place que ça doit avoir et ça a l'impact que ça peut avoir maintenant de plus en plus dans les boîtes, quoi.
Cool, merci. Est-ce que le CPTO, tu peux nous en dire quelque chose, pareil, de définir peut-être ce que c'est, l'intérêt qu'il peut y avoir de travailler avec un rôle de CPTO, et t'inquiète pas, je surveille le timing, Simon nous offre quelques minutes avant de repartir en meeting, mais le CPTO, dis-nous en plus.
Bah écoute, bon, comme son nom l'indique, c'est un C-level, donc c'est quand même quelqu'un qui est plus dans du management et de... En tout cas, dans un rôle, ouais, de leadership, quoi. Et CPTO, c'est quelqu'un qui va regrouper à la fois les fonctions de product et de tech. T'as beaucoup d'organisations où c'est bicéphale, où tu vas avoir d'un côté un chief product officer et de l'autre un chief technology officer. Mais t'as des organisations qui réunissent un peu ces deux casquettes-là sous une seule et même personne. Je pense que c'est pas simple d'avoir les deux rôles en une seule et même personne, parce que ça veut dire que il faut déjà que t'aies la capacité à bien comprendre les deux sujets, tu vois, qui sont quand même qui demandent des compétences assez distinctes, quoi. Il faut que tu sois en capacité, je pense que c'est ça qui est important dans ces rôles, d'insuffler une vision qui soit aussi bonne à la fois sur des sujets produits et à la fois sur des sujets tech. Donc c'est pas simple, et en même temps ça a beaucoup d'avantages, parce que tu peux pas avoir de désalignement entre les deux équipes, vu que c'est une seule et même personne qui va piloter les deux équipes, tu vois. Donc ça, pour moi, c'est un vrai avantage, mais ça demande, ouais, d'avoir une capacité de bien piloter les deux sujets. Je pense que c'est pour ça qu'on en voit pas encore beaucoup. Je sais pas, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas à quel point ça va se répandre davantage et tout, parce que ouais, la limite, c'est cette capacité à porter des sujets de fond et de vision sur les deux axes, quoi, tu vois. C'est ça qui est vraiment pas simple, mais quand ça marche, ça donne des modèles qui sont assez intéressants et des boîtes qui performent bien, parce que t'as pas de désalignement et tout le monde va dans la même direction, et c'est ça qui peut être intéressant aussi, quoi.
Deux questions vite pour terminer. On parle énormément de no-code et d'IA aujourd'hui là au Web Today. Raconte-nous comment toi tu perçois là ces deux grosses tendances qui ne sont plus des tendances là, qui ça y est s'installent vraiment dans nos métiers.
J'ai beaucoup creusé les sujets de no-code il y a 3-4 ans. Je trouve ça fascinant dans la capacité que ça a de permettre à n'importe qui de créer des trucs. Là où avant t'avais quand même une vraie barrière à l'entrée, où si tu pouvais pas développer, tu pouvais rien faire. Là aujourd'hui, à minima sur des protos ou des MVP, tu peux faire des vrais trucs. Et puis on a de plus en plus d'exemples de choses qui partent vraiment en production et qui encaissent de la charge et tout, qui sont aussi faits en no-code. Donc ça, je trouve ça top. Pour des rôles product, je pense que ça nous permet de prototyper des choses, de les mettre entre les mains de nos users. tu vois, sur des phases, voilà, encore une fois, de prototypage, d'alpha, puis de commencer à identifier des patterns d'usage, des trucs qui marchent bien, des trucs qui manquent et tout, et puis de dire, bah ok, j'ai appris beaucoup de choses, maintenant je vais le mettre vraiment dans mon produit, et donc je retourne de travailler avec mes développeurs, quoi, tu vois. Donc je trouve que ça, c'est hyper intéressant. Et l'IA, c'est encore le stade après, quoi. C'est, pour moi, c'est là, tu peux vraiment commencer à coder des trucs. Je sais pas si t'as joué un peu, même avec ChatGPT, et tu lui demandes de te coder des trucs et ça marche, quoi, tu vois. Et là aussi, tu vas pas faire un SaaS en entier de A à Z en travaillant que avec ChatGPT. Ça remplacera pas les développeurs. Par contre, je trouve que ça donne un peu des super pouvoirs. Et il y a à la fois comment est-ce que l'IA te permet toi d'être plus efficace dans ton boulot. Donc moi, je me suis créé une petite bibliothèque de prompts que j'utilise un peu tous les jours et qui me permettent d'aller plus vite dans mon boulot. Mais je trouve qu'en tant que product, ce qui est intéressant, c'est aussi de se demander comment est-ce que je peux utiliser ces technos dans mon produit. Tu vois, et je te donne un exemple, c'est Scribd. On a mis des briques d'IA un peu partout qui te permettent, quand tu veux interroger tes utilisateurs, bah, de te proposer des formulations sur tes questions à leur poser pour être plus efficace. On a aussi de la synthèse. Tu reçois 10 000 feedbacks dans le mois. Bon, bah, va falloir aller tous les lire. Bah, non, on te synthétise tout ça. On te fait des suggestions d'amélioration à apporter dans ton produit grâce à l'IA. Quand tu apprends des choses en lisant tous ces feedbacks et que tu veux compiler cette connaissance pour mieux la partager dans ton organisation, eh bien, on a une brique qui te permet de dire, tiens, dis-moi tout ce qu'on a déjà appris à propos de, je sais pas, notre appli mobile dans le passé, par exemple. Et l'IA va tout te compiler, tout te synthétiser et te rediriger vers les bons learnings que tu as pu avoir dans le passé. Donc, c'est là où je trouve que c'est intéressant en tant que product, cette nouvelle tendance. C'est que à la fois ça peut t'aider dans ton boulot à être plus efficace, mais en plus ça peut augmenter tes produits que tu conçois pour tes users et leur apporter encore plus de valeur. Donc je trouve vraiment qu'on, et ça va être tarte à la crème un peu ce que je veux dire, mais je trouve qu'on vit vraiment une époque assez fascinante par rapport à ce que ça nous permet de nous apporter à nous en termes de valeur, mais ce que ça nous permet d'apporter à nos users aussi en termes de valeur, quoi.
Tu me fais une transition toute trouver un petit peu pour ma dernière question qui était sur le futur du travail, qui est aussi quelque chose qui est abordé là durant ce Web 2D, à la lumière de ce qu'on s'est dit, product, no code, IA, tu vois comment le futur de ton travail?
Je pense que ce qu'on est en train de vivre là va nous permettre de nous recentrer sur le cœur de notre métier, qui est comment je crée de la valeur pour nos users tout en créant pour ma boîte, tu vois. Je pense que c'est ça, in fine, le métier d'un product manager, d'une product manageuse, d'un head of product ou d'une CPO, tu vois. À la fin, ce qui nous anime tous les jours, c'est ça. Comment j'apporte de la valeur à nos users tout en apportant à notre boîte. Et grâce au no-code, puisque tu peux prototyper plus vite, grâce à l'IA, puisque tu peux travailler plus vite ou apporter des choses qui sont un peu magiques dans ton produit pour tes users et le faire presque en claquant des doigts, quoi. Ça nous permet de nous astreindre d'un certain nombre de complexités techniques qu'on avait avant et qu'on ne pouvait pas bypasser, tu vois. Et à l'inverse, bah aller beaucoup plus vite dans notre capacité à délivrer de la valeur, quoi. Et donc nous, dans notre métier, ça nous permet vraiment de nous concentrer sur la bonne identification du problème sur laquelle je veux travailler, celle qui va avoir le plus d'impact si j'arrive à le résoudre, tu vois, chez nos clients, et puis sur la conception de la meilleure manière de résoudre ce problème, ce qui est le cœur de notre métier product, en fait, quoi. Et tout ça nous permet d'avoir des super pouvoirs un peu pour arriver à délivrer cette valeur beaucoup plus rapidement, quoi.
Trop bien, Simon. Merci. En moins de 10 minutes de nous avoir fait autant de valeur. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur Scribd, sur toi, te contacter, on te retrouve où? On vous retrouve où?
Alors, vous pouvez aller sur scribd.app, scribd.app. Là, vous avez toutes les infos sur le produit. Vous pouvez le tester. On a une version gratuite du produit si vous voulez le déployer chez vous. Donc, n'hésitez pas. Et puis, bah, quand vous allez tester Scribd, on va nous-mêmes vous poser régulièrement des questions. Ça nous aide toujours à nous améliorer. Et puis, sinon, de mon côté, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn où j'essaie de publier régulièrement du contenu sur les sujets product aussi. Donc, n'hésitez pas. Même si vous voulez m'envoyer quelques messages, j'y réponds toujours avec plaisir, quoi.
Top. Merci, Simon. Bon Web Today.
Je pense que j'ai déjà plus de 20 minutes dans les interviews que j'ai prises. Alors, pour clôturer cette première journée, je vous en propose une dernière. C'est un échange avec Gladys Diandoki qui va nous parler de content design et aussi un peu d'IA encore. Je suis obligé tant c'est présent durant cet événement.
je suis avec avec Gladys qui tu vas nous parler de content design. Tu sors juste d'une conférence là-dessus. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes et puis nous dire le contenu justement de cette conférence et les sujets que tu as abordés?
Alors, je suis donc content designer, comme tu l'as dit, en freelance. Et donc, j'ai la chance de travailler pour plein de marques différentes. J'ai travaillé pour Betagouv, j'ai travaillé donc pour le ministère des Affaires étrangères qui est là à Nantes. J'ai pu travailler pour Ornicar, plein de marques différentes, de produits différents. Et donc, mon talk, puisque c'était ta question, j'ai fait un talk qui s'appelle « Comment donner vie à son produit avec le contenu ?» Parce qu'en fait, on se rend compte que assez souvent, on va avoir des produits où les designers qui veulent bien faire, certes, mais en fait, vont vous poser du texte sur un écran pour effectivement expliquer ce qu'on doit faire. Mais en fait, le contenu, et quand on travaille avec des content designers ou quand on commence à penser le contenu comme un élément de design, bien, en fait, on peut commencer à créer des produits qui sont, je vais dire, vivants, qui sont appropriés par rapport à ce que personnes vivent, qui vont être centrés utilisateurs ou utilisatrices, mais pour de vrai et pas juste en termes de posture. Et en fait, il y a plein de petites choses. C'est un exemple tout bête, c'est au lieu de dire, vous pouvez prendre un rendez-vous dans l'agenda de nos, voilà. Je sais pas si c'est le bon exemple parce que j'ai pas la phrase exacte en tête, mais en gros, vous pouvez tourner les choses de manière à ce que la personne ait l'impression qu'on lui parle à elle, au lieu de donner l'impression que vous parlez de votre produit.
Oui. Et tu veux dire dès les maquettes, c'est-à-dire arrêter avec les John Doe, les Lorem Ipsum et compagnie, c'est-à-dire dès le...
Très clairement, parce que en fait, ça t'aide pas à savoir pourquoi tu donnes telle information et comment tu la donnes. En fait, nous, effectivement, si là, je t'explique... nous, en fait, ce qu'on va beaucoup faire, c'est... au début, on va faire de la recherche pour savoir de quelle information on a besoin. Donc, le business va m'apporter... les PM, le business va m'apporter une vision, la leur. Les utilisateurs vont m'apporter la leur. Je peux aussi appeler le service client et récupérer de la data. Il y a plein de manières de récupérer de la data et à partir de toute cette data, moi, j'ai commencé à définir comment je commence à structurer l'information. Pourquoi on met telle information à tel endroit? Comment on va commencer à séquencer son flow? Comment on raconte une histoire dans ce parcours et pas juste Lorem Ipsum, parce qu'en fait, ça ne te dit rien. Ça va t'aider à faire une maquette, mais ça t'aidera pas à passer un message. Donc oui, en fait, c'est caricatural de dire ça, mais c'est quand même commencer à raconter une histoire dans le produit, faire en sorte que on crée des produits qu'on aime. Et pas juste des produits qu'on utilise. Et c'est faire aussi en sorte, parce que c'est quand même la base, c'est commencer à donner des instructions qui sont claires, qui sont faciles. T'as pas à te poser de questions sur qu'est-ce que je dois faire. Et en plus, on peut rajouter ces petits trucs en plus qui font que les gens vont se dire waouh, ah ouais, oh mais enfin, on m'a compris dans ça. Ou c'est trop fun, j'adore ce produit parce que ils font des trucs que j'ai jamais vus ailleurs.
Tu m'as parlé de grands groupes, de ministère des Affaires étrangères et compagnie. Si je suis une start-up, que je suis en démarrage, que j'ai pas un budget illimité et que je dois sans arrêt prioriser sur est-ce que je dois faire de la com, est-ce que je dois faire ci, le content design, j'imagine que ça arrive pas en premier en général. Tu avais un conseil en tout cas à donner à un entrepreneur en démarrage qui lance sa start-up. Tu lui dirais quoi au-delà de acheter ton livre, bien sûr?
acheter mon livre, mais non. Je pense que le plus intéressant et le plus important, si vous pouvez avoir des content designers. Je parle pas de copywriter parce qu'on fait pas le même métier, mais si vous pouvez avoir des content designers, commencez à travailler avec des content designers en free. Ça peut être quelques heures. Si c'est pas possible, moi je vous conseille justement de trouver des gens dans l'équipe, dans votre équipe de designers, qui a des gens qui ont une appétence pour le contenu. Parce qu'en fait, tout le monde n'a pas un kiff pour ça, mais des gens qui ont un vrai intérêt là-dessus, que ces personnes commencent à lire, parce qu'à minima, ça coûte moins cher d'acheter des livres. Donc, on peut déjà commencer par ça. Donc, ça peut être le mien, mais il y a plein de podcasts, il y a plein de contenus, il y a plein de vidéos. Commencez à vous familiariser avec ça. Commencez à vous prendre quelques éléments que vous pouvez commencer à transposer dans le contenu. Testez. Commencez à itérer. Quand vous faites des tests, commencez à itérer en pensant... la personne là, elle me dit, en fait, ou son langage corporel me dit qu'en fait, elle comprend pas exactement ce qui se passe. Ok. Et si on itérait, on va essayer de simplifier, on va retester. Et en fait, à minima, s'il n'y a pas de content designer, commencez à écouter ce que les gens disent. Commencez à écouter les pain points, le langage corporel, ce que les gens pensent. Demandez aux gens de vous dire comment ils le diraient à leur façon. Enfin, c'est des petits trucs dans les tests, mais qui sont tout simples au final et qui permettent, déjà de faire des corrections en étant un peu plus fin que ce qu'on pourrait faire si on n'a pas cette réflexion en tête.
Ok. Et ma dernière question rapide, c'est Là, durant le Web Today, on le voit de manière plus générale, on parle beaucoup des IA génératives. Est-ce que ça va venir challenger les content designers? Est-ce que ça va venir vous aider? C'est quoi ton regard un peu sur ces IA?
Mon regard, il est, moi, j'ai utilisé de l'IA parce qu'on utilisait un produit qui s'appelle Writer, où il y a de l'IA. Et moi, je sais que des fois, il m'arrivait d'être buggée, d'avoir besoin juste de propositions. Donc, j'utilisais le prompt en disant, voilà, comment tu pourrais dire ça? Et il me sortait des propositions. J'ai jamais utilisé exactement la proposition de l'IA, mais des fois, quand le truc, il vient pas, ça t'aide à trouver des perspectives et en tout cas, avoir de la matière que tu peux commencer à travailler. Maintenant, pour une équipe qui a rien, ça peut toujours être mieux que rien, mais ces contenus, moi, pour moi, ils sont bien, mais c'est des supports. Franchement, je pense que moi, j'utilise pas ChatGPT, mais je suis sûre que quand tu fais un prompt, enfin, j'ai utilisé des petits trucs comme ça, j'ai jamais réussi à utiliser un truc tel quel. Il a toujours fallu retravailler les éléments. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est cool d'avoir des perspectives en plus, de challenger en disant, ouais, comment tu dirais ça? Mais c'est comme si j'allais voir ma collègue ou d'autres collègues en disant, ouais, tu dirais quoi? Et au final, ben, c'est juste une source et des propositions additionnelles. Et en fait, pourquoi pas? C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien.
Cool. Merci Gladys. Bon festival. Bon Web Today.
Merci. À bientôt.
Première étape de ce format coulisses du Web Today fini. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je l'ai dit en intro, j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous avez pensé de ce format qui change du format original. Un nouvel épisode est déjà publié pour aborder de nouvelles thématiques comme le futur du travail ou la semaine de 4 jours avec d'autres invités tout aussi brillantes et brillants. C'est aussi au Web Today que ça se passe, donc voilà, l'épisode est déjà disponible. Petite nouveauté, si vous écoutez sur Spotify, vous pouvez laisser un avis 5 étoiles et répondre à une petite question que je vous ai laissée. Regardez sur votre téléphone. Et si vous êtes sur Apple Podcast, ben, un avis 5 étoiles ne permet pas de changer le monde, mais il permettra à ce podcast de continuer sa progression. Je remercie d'ailleurs Yvan, qui est le dernier commentaire, qui nous dit « Excellent podcast avec des invités géniaux qui gagnent à être connus ». Merci Yvan, toi aussi tu gagnes à être connu pour avoir laissé ce commentaire et j'espère à très vite. Merci à toutes et tous pour votre écoute et peut-être à tout de suite alors dans le prochain épisode. À bientôt.